France Inter.
Et il est 19h21, dites-moi.
France Inter, le 18-20, Fabienne Santès.
Ah, mais c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants à France Inter aujourd'hui. Je me demandais aussi, je comprends mieux pourquoi quelques parents de la maison ont passé une tête au 18-20 en disant « C'est vrai que vous avez Aldebert au téléphone sonne ?» Oui, c'est vrai. « C'est vrai que vous avez Monsieur Tan ?» Oui, c'est vrai, mais il est à Lyon, c'est pas la peine de venir, avec un album de Mortel Adèle. « C'est vrai que vous avez Laure Grand Besançon ?» Oui, c'est vrai. Moi, je sais d'ailleurs ce qu'il y aura comme nouvelle Odyssée. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai une pointe de jalousie, figurez-vous, parce que moi, je suis la génération où les chanteurs pour enfants avaient des salopettes rouges ou des couettes et aucun ne m'a jamais parlé de harcèlement, de famille recomposée, ni de ma vie d'enfant. Mes BD, c'était bien, mais c'était sage. Quant aux histoires à raconter, bah, les contes d'Andersen, oui, c'était bien, mais en réalité, pas beaucoup plus. Aujourd'hui, on parle aux enfants comme à des petits adultes qui peuvent comprendre plein de choses si on prend le temps de se mettre à leur hauteur. Et c'est pour ça que les enfants adorent nos invités, d'autres aussi, bien sûr. Mais allez-y, donnez-vous-en à cœur joie, les amis. Aldebert n'écrit pas de comptines, il écrit des vraies chansons, parfois même du métal. Monsieur Tan a fait d'Adèle une vraie badass féministe. Et Laure nous parle de Badinter ou de Simone Veil. Pour fêter l'arrivée de mon petit France Inter, déjà disponible sur l'appli, on vous les offre, vos idoles. Vous pouvez évidemment poser toutes les questions du monde, ils sont là pour ça. Piquez donc les téléphones de vos parents, puisque comme chacun sait, vous n'en avez pas vous-même. C'est le téléphone sonne, un vrai téléphone sonne, comme celui des grands, mais en mieux, soyez les bienvenus.
France Inter, le téléphone sonne. Allô ?
Allô Sophia, allô Vadim, ensemble les amis.
Allô ?
Allô.
Allô, salut Sophia, salut Vadim. 5 et 7 ans, qui est-ce qui parle ?
Sophia.
C'est Sophia qui parle. Eh bien, vas-y, Sophia, on t'écoute. La question, elle est pour Monsieur Tan, autant que je sache.
Et comment vous faites pour avoir toutes ces idées de blagues ? Et est-ce qu'on pourrait vous rencontrer un jour ?
Ah ! Vadim, ça, c'était Sophia, c'est ça ?
Oui.
Et Vadim, t'as une question, toi, spécifique, ou tu prends celle de ta sœur ?
Non.
Allez, vas-y.
Ah mais elle est déjà assez lourde pour la partager à deux, cette question des idées de bêtises, comme si vous en manquiez. Genre, c'est un peu le job le plus facile du monde d'imaginer de se lever le matin et de se dire quelle bêtise je pourrais faire. Je suis sûr que Guillaume est très doué là-dedans, lui aussi.
J'ai quelques idées, ouais.
Ouais. Et non, bah, l'idée, c'est de trouver toujours ce qui rend l'ordinaire extraordinaire. Et c'est comme ça que je vois mon métier de scénariste. C'est de chercher le petit grain de sable, le petit moment de dérapage, la petite bascule qui fait qu'on va d'un coup faire qu'une situation ordinaire va devenir drôle, faire rire les autres et devenir un moment dont on va pouvoir se souvenir. Et on se rend vite compte que l'imagination est assez infinie quand on commence à regarder tout ça.
Après, c'est gagné, j'imagine, Monsieur Tan, Antoine Dole, je vous salue d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait à l'instant.
En plus, vous avez raconté votre enfance malheureuse avant même.
Alors malheureuse, n'exagérons rien, mais moi j'étais hyper... Maintenant je suis hyper... Et honnêtement, vous me faites rire, quoi. Moi, et j'entends bien qu'il y a des niveaux qui sont un peu différents chez les enfants, mais quand Adèle va à une fête costumée et qu'on lui demande c'est quoi ton costume d'Halloween, elle répond mère au foyer, je suis désolée, mais voilà, moi ça me fait rire.
Oui.
Et c'est comme ça que ça marche. Aldebert, et là aussi je vous ai pas salué, bonsoir Aldebert, et vous appelez Guillaume tout à l'heure, c'est
Fabienne.
Votre prénom, mais on n'est pas censé le savoir en fait, que vous avez un prénom.
Ça dépend, les gens m'appellent, quand ils le connaissent, ils m'appellent Guillaume.
Vous êtes auteur, compositeur, interprète, évidemment, vous allez nous raconter, il y a plein de questions pour vous aussi, et Laure Grand Besançon, je vous salue Laure.
Bonsoir à tous, bonsoir Fabienne, salut.
Les Odyssées, évidemment, c'est vous, et qui d'autre ça pourrait être d'ailleurs que vous. Il y a plein de questions chez vous aussi, pour vous aussi, Aldebert, sur ce moment, parce que chez vous c'est une bascule en fait, vous étiez, j'allais dire, pardon de le dire comme ça, vous étiez chanteur normal.
J'étais chanteur pour adultes,
ouais.
Mais ouais, ça fait bizarre de dire je faisais de la chanson pour adultes, ça fait genre chanson de charme. Mais oui,
vous
le truc...
que vous avez glissé, moi je trouve ça joli en fait.
Ouais, j'ai glissé vraiment naturellement, c'est un petit toboggan naturel qui s'est fait parce que, peut-être inconsciemment, je parlais tout le temps d'enfance. C'est une obsession. Et donc j'avais beaucoup de chansons qui se passaient dans la cour du collège, à l'école, les premiers amours, les appréhensions de l'âge adulte et tout ça. Donc du coup, naturellement, j'ai ouvert cette grande porte en fait de la chanson pour enfants en essayant de renouveler, je l'ai pris à ma façon en fait, c'est-à-dire que sans m'inspirer des modèles, en faisant un peu à ma sauce, voilà.
J'ai beaucoup aimé cette phrase de Maxime Le Forestier que j'ai trouvée en préparant cette émission, qui parle de vous et qui dit « t'es pas un chanteur pour enfants, t'es un chanteur pour les parents en fait ».
Ouais, Il m'a dit ça, lui. Alors, ça m'a marqué, parce qu'en plus, c'était une des premières grandes collaborations sur Enfantillage, d'avoir le Forestier et sa voix que je connaissais presque depuis In Utero, là, quasiment. Et il m'a dit, ouais, t'es un chanteur sur l'enfance, ou t'es un chanteur pour parents.
Elle est jolie, la chanson que vous partagez avec lui, d'ailleurs, Laure, et puis on attend Léonie qui est dans notre vocal.
Et puis, en fait, finalement, tu t'es un chanteur, en fait. Enfin, tu t'adresses aux enfants, aux adultes, mais t'es un chanteur tout court, voilà.
Mais il y a plein de chansons... qui s'adresse pas à une tranche d'âge, en fait, quoi, qui aborde des thèmes de toutes les générations, quoi.
Et exactement comme on peut lire Mortel Adèle et comme on peut écouter aussi les Odyssées,
bien
évidemment.
Sûr. On écoute l'Odyssée dans la voiture.
Une bonne chanson, une bonne histoire, ça touche tout le monde, en fait.
Et moi, je pique les... Bon, Antoine, je le connais, on a collaboré ensemble sur un album, donc mais je pique encore des Mortel Adèle à mes enfants, bien sûr.
Une note vocale, c'est celle de Léonie, et on la découvre ensemble.
Bonjour, je m'appelle Léonie et j'ai 10 ans. J'ai une question à poser à Aldebert. Que se passe-t-il dans les coulisses avant un concert ? Merci de me répondre, au revoir.
Oh là là, Léonie, je sais pas si je peux te répondre là-dessus, non, on n'a rien à cacher. Dans les coulisses, c'est assez rigolo. Parce que, en fait, bon, les techniciens, eux, ils sont très très affairés. Ils commencent à 7h du mat, tu vois, pour installer le décor et tout ça. Après, ils font une pause et nous, on attaque. Donc, dans les loges, soit on bosse, soit on travaille, soit on s'amuse. On joue à des jeux vidéo, on lit, on se repose. C'est une vie comme à la maison, un petit peu, tu vois.
Et ben voilà la réponse pour Léonie. En voilà une autre de notre vocale, elle est plutôt pour vous. Laure Grebesançon, c'est celle de Sarah.
Bonjour Laure, je m'appelle Lilian, j'ai 5 ans et demi et je vais vous poser une question. Comment vous faites pour faire les Odyssées, vu que une fois moi j'étais allée voir un spectacle et j'avais vu que vous étiez à deux pour faire les Odyssées?
Trop bonne question. Salut Lilian, on t'embrasse très très fort. Et effectivement, en fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, quand on fait des Odyssées ou des spectacles.
Pas Sarah.
C'était Lilian, il a dit Lilian.
C'est Sarah, allez-y.
C'est Sarah ou Lilian, enfin, on t'embrasse très fort, on vous embrasse en fait.
C'est la vieillesse. Et les enfants.
Mais en fait, effectivement, il y a toujours plein de gens derrière un spectacle, derrière une émission de radio, etc. Et du coup, quand t'es venu voir le spectacle, on était deux comédiens sur scène. Et il y avait aussi tout autour, comme tu l'as dit, Aldebert, des techniciens, des gens qui font du son, etc. Et quand on fait les Odyssées de la radio, là tu entends Fabienne Synthès, mais derrière il y a une régie, et derrière il y a plein de gens, il y a des réalisateurs, des techniciens, il y a des gens qui préparent la documentation, et du coup c'est une sorte de travail collectif avec après des gens qui portent les voix, mais il y a toute une bande derrière.
Le plus solitaire au fond c'est vous, Antoine Daul, Monsieur Tan, à la fin, vous il faut inventer vos blagues, essayer de voir comment ça colle avec Adèle, au fond vous êtes le plus solitaire, ou pas peut-être en fait.
Pas tant que ça, parce qu'en fait, moi, je partage cette aventure avec Diane Lefeyer aujourd'hui, après l'avoir partagée avec Miss Prickly pendant quelques tomes. Et c'est vrai que c'est une belle amitié aussi, c'est ce qui nourrit la création. Adèle, elle est née d'un grand moment de solitude dans ma vie d'adolescent, et elle est aujourd'hui une source de rassemblement et de belles rencontres. Donc finalement, tout rentre dans l'ordre.
Mais est-ce que c'est sur elle que vous testez les blagues, du coup, ou pas ?
Sur Diane ?
Ouais.
Non, je l'étais sur mon chat.
Ah, non, mais je dis ça sans rioler, parce que il s'appelle Ajax, votre chat aussi, ou pas ?
Il s'appelle Snow, il est aussi dans la bande dessinée, en fait, ça fait partie des personnages de la série.
Et...
Il est pas bleu, non. Ajax, c'est le seul chat bleu qu'on a découvert, et c'est pour ça qu'il est indestructible.
Anatole est avec nous. Bonsoir, Anatole.
Bonsoir, j'aimerais poser une question à Aldebert. Quelle est ta chanson préférée dans toutes celles que tu as composées ?
Salut. Écoute, j'ai pas vraiment de chanson préférée, tu vois, parce que s'il y a une chanson que j'aime moins, voire que j'aime pas du tout, je l'assume pas. Donc il faut que je les porte toutes et que je les défende sur scène ou sur les albums. Donc ça, il y a des soirs où il y en a certaines que j'ai très envie de chanter et d'autres un peu moins parce que ça dépend de l'énergie et de la forme générale, tu vois. Mais j'ai pas une chanson étendard, si tu veux. J'ai pas une chanson préférée.
Est-elle à 8 ans? On t'écoute, est-elle?
Tu peux dire bonsoir. Bonsoir.
Dis bonsoir, est-elle.
J'ai 8 ans. Je voudrais vous demander quand vous
vous avez pensé pour la première fois lorsque aborté la grèce? Je me suis trompée.
Ah bah ouais, attends, respire avec le ventre et recommence. Vas-y, Ethel.
À quoi vous avez pensé la première fois que vous avez décidé de porter Adèle ?
Eh ben voilà, là voilà une question bon. Claire et précise, monsieur Tan.
Eh ben écoute, moi je l'ai créée quand j'avais 14 ans, je la dessinais dans mes cahiers à l'école, et à l'époque j'étais victime de harcèlement scolaire. Et dessiner Mortel Adèle, la première fois que je l'ai dessiné, je me souviens très bien, j'étais dans un couloir de mon collège caché à l'heure de la récréation. Et de colère, j'ai rayé une feuille et j'ai dessiné tout de suite deux yeux en dessous. C'est devenu la barre de front de Mortel Adèle et j'avais besoin qu'un personnage me regarde et me fasse exister à nouveau. J'étais un enfant qui disparaissait dans ses violences et voilà. Et j'ai simplement pensé à qu'est-ce qui est important pour qu'on réapparaisse dans le monde quand on a l'impression d'y disparaître.
C'est pour ça qu'elle est badass, Mortel Adèle. Vous auriez tellement rêvé d'être badass comme elle, en fait, à ce moment-là.
J'étais badass comme elle, mais je ne m'en rendais pas encore compte.
Elle est jolie, Aldebert, la chanson, le cartel des cartables sur le harcèlement, chez vous aussi. Et c'est fou, hein, parce que dès qu'on parle aux enfants, à un moment ou un autre, il faut s'y cogner à ce thème-là, quoi. Vraiment, il faut y aller.
Bah, c'est quelque chose qu'on traverse à un moment donné, j'ai l'impression. C'est triste, hein, mais moi, j'ai croisé cette épreuve-là en CP, en CM1 et un peu moins au collège. Bizarrement, ça s'est un peu étiolé, alors que c'est quand même le collège le pire, je trouve. C'est ce qui représente le plus la jungle. Mais dès le CP, en fait, j'avais un garçon qui me disait, c'était horrible, il passait sa journée, en fait, à me dire dans l'oreille, t'es con. Mais c'était l'enfer, en fait, ce gars, quoi. Et heureusement, on a déménagé, ça, c'était le super timing, parce qu'à Noël, on est parti ailleurs. Et mais voilà.
Parfois c'est bien fait, parfois la vie est bien faite. Mais effectivement, comme vous le dites très joliment, c'est l'omerta de la cour de récré. Donc parfois, effectivement, il faut arriver à sortir de là. Ambre est avec nous. Bonsoir, Ambre.
Bonsoir.
Bonsoir, Ambre.
Vas-y, Ambre. 1, 2, 3.
Je voulais poser une question à Laure Grand Besançon.
Ok. Coucou.
Coucou. Je voulais savoir comment tu arrives à captiver vraiment les gens quand tu racontes tes podcasts.
Alors là, question. Je pense que je pense à vous et surtout j'essaie de mettre le paquet quand j'écris les histoires et tu vois, mettre plein de d'émotions différentes, plein de rythmes différents, plein de couleurs différentes, des blagues évidemment, mais surtout en fait j'essaie d'essayer de vous faire de construire des récits pour les enfants. Pour les adultes aussi, parce que les parfois écoutent aussi avec vous, mais qui soient aussi forts et denses et vibrants que ce qu'on peut imaginer pour les adultes, en fait, en me disant que ben, vous aussi, vous avez envie de trembler, de rire, et donc on essaie de mettre un peu tout ça à la fois, mais c'est un peu tâtonnant, tu vois, on essaye, on se trompe, on réessaye, enfin, c'est un peu artisanal comme ça, quoi.
Et puis tu fais un travail de comédienne aussi, vraiment.
Ah oui, après, il y a l'interprétation, après, le jeu au micro, comme ça, faut y aller, il faut
moi,
donner
je pas,
de l'énergie.
Hein, par exemple, c'est autre chose. Ouais. Après, vous vous interdisez rien, Laure. Moi, je trouve ça fascinant. Par exemple, Badinter, qui était dans l'actualité, les enfants ont aussi eu une odyssée sur Badinter. Donc, il y a ce moment où vous vous dites, ok, alors qu'est-ce que je leur raconte? Jusqu'où je vais aussi? Parce qu'il y a quand même, dans l'histoire de Robert Badinter, des choses qui sont pas faciles. Et on sait que la tranche d'âge des enfants, si ça commence à 6, on n'entend pas la même chose quand on a 6 ans ou quand on a 12 ans. Mmh. Donc, comment on fait pour faire ce chemin-là?
Bah, il y a déjà l'appui du son, quand même, qui est assez fort, parce que du coup c'est pas juste une histoire comme ça, c'est une histoire qui est on va dire réalisée comme un dessin animé sonore, donc je sais qu'il y a des choses par exemple peut-être qui vont plus accrocher les 6 ans parce qu'ils vont rester à l'écoute du son, des choses qui vont peut-être plus interroger les 10 ans, les 12 ans, mais après effectivement je pense que c'est peut-être comme toi aussi Aldebert et comme toi Antoine à Lyon quand on raconte une histoire, on essaie de raconter une bonne histoire quoi, et c'est tout en fait, et on peut tout dire aux enfants, après il s'agit d'éclairer le chemin avec les bonnes loupiottes aux bons endroits pour qu'on reste à l'écoute et tout ça, mais sinon on peut tout raconter, effectivement on peut parler de la mort, on peut parler de la peine de mort, on peut parler de l'IVG, on peut tout raconter comme ça, mais avec les bonnes petites loupiottes quoi.
Faut pas avoir peur d'être dark en fait, mais les enfants adorent ça de toute façon. Aldebert, vous vous y allez, vous faites du métal, enfin vous envoyez aussi les enfants dans des registres dont on se dit que c'est pas le registre des enfants, mais pourquoi en fait ce serait pas le registre des enfants d'écouter du métal, des choses dans Enfantillage 666, ça dépote quoi.
Ouais, ça dépote, mais c'est vrai en fait, la réaction au début quand j'ai dit que je faisais de la chanson pour enfants, du métal pour enfants, il y avait un côté what the fuck, il y avait un côté mais qu'est-ce que tu fais ? Et moi je suis persuadé qu'il y a des vraies passerelles entre cette énergie du métal et l'enfance, parce qu'il y a un enthousiasme, il y a une énergie, il y a une bienveillance, contrairement à ce que l'image du métal peut dégager, et surtout les vieux clichés qu'on trimballe, ouais. et une sincérité, une authenticité. Donc ça, c'est des valeurs qu'ont les enfants et qu'ont les acteurs du métal aussi, vraiment. Mmh.
Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez, vous, Monsieur Tan, parfois, en disant « Non, c'est bon, là, elle va trop loin, Adèle », ou pas du tout ?
Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire confiance à l'intelligence des enfants, déjà, ce qui est quelque chose qui n'est pas toujours courant partout. Et puis de garder en tête que tous les parents, parce qu'on parle beaucoup des parents et des enfants comme s'il y avait une frontière entre les deux, mais tous les parents ont été des enfants, donc il y a aussi besoin de réparer des choses chez ces enfants qui ont grandi. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que les adultes n'existent pas, et j'y crois fermement. Après, sur la question de ce que je m'interdis, c'est de montrer du sang, parce que ça, c'est quelque chose qui est une matérialisation de la violence qui est quand même particulièrement dur. Ouais. Et puis, on montre jamais les passages à l'acte. C'est-à-dire que quand Adèle, alors c'est plus vrai dans les premiers tomes que dans les derniers, parce que dans les derniers, on a un peu changé aussi ce discours-là, mais dans les premiers, quand elle mettait un coup de batte, alors là, on a perdu la moitié des auditeurs.
On voyait pas
l'impact, en fait. On voyait l'intention et on voyait la réaction, mais on voyait pas le coup.
Mais je trouve ça marrant qu'elle le fasse plus, en fait. Enfin, ça dit des choses, hein, ça fait 10 ans.
Fait 10 ans et je pense qu'Adèle, elle a grandi avec son auteur. Moi, j'ai commencé Adèle comme un vieil ado très en colère de tout ce qu'il avait vécu. Et elle a guéri beaucoup de choses. Et finalement, ce qu'elle raconte aujourd'hui est le reflet de la manière dont toutes ces choses-là, tous ces messages-là ont évolué et comment cette colère a trouvé sa place.
Avant de retourner au standard, j'en profite, tant que je vous tiens, Antoine Daul, Monsieur Tan, j'ai deux questions sur WhatsApp, celle de Flo. en fait, celle de Julie d'ailleurs, c'est Flo qui tient le téléphone, ça doit être sa mère. on a découvert Mortel Adèle il y a 2 semaines et Julie, qui a 7 ans, n'en décolle plus. Question numéro 1, pourquoi Adèle n'aime pas la joie ?
Oula, quelle drôle de question. Adèle aime beaucoup la joie.
Juste qu'elle ne l'exprime pas toujours.
Adèle est une petite fille courageuse. Moi, je pense qu'il faut donner une vision de l'enfance qui est le reflet de sa complexité. On a tendance à penser que l'enfance, c'est un endroit de joie, que c'est un endroit de soleil, de rire. Et on veut que nos enfants soient des créatures qui rigolent tout le temps et qui trouvent tout chouette et trouvent tout joyeux. La vérité, c'est qu'ils peuvent être aussi des fois tristes, des fois en colère, des fois énervés, des fois mélancoliques. Et j'aime explorer cette complexité-là.
Et voyez, voilà. C'est marrant, hein, parce que la deuxième question de Julie, qui vous a découvert il y a 2 semaines. Donc elle est, j'imagine...
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines ?
Ben alors, allez savoir. Mais du coup, elle est partie du premier, en fait. Et c'est exactement ce que vous nous disiez juste avant. Et la question qu'elle pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle a autant d'armes et comment elle les a eues ?
Ça, c'est le secret de... En fait, vous savez, nous, on a signé une charte. On n'a pas le droit de divulguer la recette pour fabriquer un zombie. On n'a pas le droit de dire où trouver toutes ces armes médiévales. Et voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que c'était la matérialisation finalement de comment est-ce qu'on s'exprime quand on est en colère et quel impact peuvent avoir les mots. Et pour matérialiser ça, moi j'ai utilisé des armes, alors qui sont pas des armes qu'on trouve dans la vie de tous les jours, hein, je vous rassure, c'est des massues et des armes médiévales pour la plupart. Mais,
moi j'adore
mais
quand ouais. Elle fait un casting pour trouver son ami imaginaire et il y a une éponge et l'éponge lui dit, il paraît que vous pouvez pas travailler sous la pluie, ça va pas être possible. Après il y a un loup, vous voulez manger mes parents ? Non, ça va juste pas être possible non plus.
Non, tout va bien.
Je suis hyper fan. Voici Edgar et Claude. En duo, les deux. Salut les enfants.
Bonjour.
Alors, qui c'est qui parle ?
Comment les enfants grandissent ?
Waouh ! Ça, c'est la question de Claude.
T'as quel âge ? 4 ans et demi. J'ai 4 ans et demi.
T'as 4 ans et demi, Claude. Eh ben dis donc, c'est une sacrée question. Edgar, t'as une question derrière ou pas ?
Oui.
Vas-y.
Comment Aldebert ? J'en ai deux. Comment Aldebert crée des chansons et comment il s'inspire.
Ok.
Et c'est quoi son album préféré ?
Ok.
Là, c'est pas la chanson, c'est l'enfantillage.
Ok. Eh bien, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur la question de Claude, excusez-moi, mais comment les enfants grandissent ? C'est pour vous, Aldebert.
Oh là là.
Vous avez 30 secondes.
En enchaînant des premières fois. Quoi.
Mais je pense que vous savez comment les enfants grandissent, en fait. Parce qu'il y a une chanson qui parle de ça. C'est celle que vous avez partagée avec Maxime Le Forestier.
Ah, plus tard quand tu seras grand.
Ouais, exactement.
Ouais.
Ça dit ça, non?
Oui, ça dit un peu ça, ouais. Moi, j'ai envie de... J'ai pas envie de rester enfant, parce que, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est une période qui peut être aussi très dure, très sombre. Par contre, j'ai envie de garder certaines choses de l'enfance, notamment l'imaginaire. Parce que ça nous sauve et ça nous décolle de la vie normale qui est pesante, surtout quand on est adulte. Donc ça, c'est vraiment moi, je mets tout en œuvre pour faire ça. Et c'est dans notre métier, à tous les trois, là, c'est ce qu'on s'attarde à faire vraiment. Comment, pour répondre à sa question, comment je construis des chansons? Tu sais, mes chansons, elles sont souvent motivées par des remarques de mes enfants. Parce que j'en ai trois, de 7, 9 et 12. Et du coup, ils ont un paradigme, enfin, ils ont une vision de la vie qui est toujours décalée. C'est la vision des enfants. Et ça, c'est intéressant, c'est de la matière pour faire des chansons. Donc, il y a plein de chansons. Par exemple, la chanson du Grand Voyage qui parle de l'au-delà, qui parle de la mort, de l'absence et tout ça. Elle est très imagée, très métaphorique, mais elle vient d'une question de Charlie, je crois, il y a quelques années, qui m'a dit mais ma petite sœur, elle va arriver, elle est où là? Qu'est-ce qu'elle fout? Ou mon père, qu'ils n'ont jamais connu, me dit mais il est où? Ils vont se croiser peut-être? Je trouve ça intéressant. Donc voilà, ça c'est de la matière.
Est-ce que c'est la classe d'être, à votre avis, les fils et les filles d'Aldebert? Ou est-ce que c'est limite la honte dans la cour de l'école? Ils s'en sont où, là?
Ça va être la honte au collège.
Ouais, sûrement. Ouais.
Je pense que pour Charlie, ça commence à être un peu la honte. Donc, ton père, il est chanteur? Non.
Non. Il est médecin. Antoine Daul, Monsieur Tan, la question d'Edgar, la question de Claude, pardon. Comment les enfants grandissent? Vous l'avez la réponse, vous, pas?
Comment les enfants grandissent, je sais pas. Je pense qu'il y a des collisions qui sont inévitables avec le monde. Je pense qu'on a beau essayer de protéger de mille façons des petits cœurs purs et innocents, c'est des choses qui sont pas possibles. Je pense que on est ces deux personnes à la fois. On est cet enfant et cet adulte qui cohabitent dans un corps qui lui grandit. Quand vous allez voir le psy, il va pas soigner l'adulte de 45 ans. Il va soigner le petit enfant de 5 ans. Qui a été oublié au supermarché. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné un continuum. Donc, oui, on grandit, mais je pense que, comme disait Jacques Brel, c'est surtout une attitude de devenir adulte. C'est pas une finalité.
Je voudrais lire un petit bout quand même de cette chanson dont je parlais, Aldebert, et qui dit « Je patiente doucement que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau du monde. » Grandir, c'est aussi l'impatience d'être adulte, en fait. Il devrait pas être aussi impatient d'être adulte, finalement, les enfants, peut-être.
Ouais, c'est ça, c'est tout le paradoxe, en fait. C'est-à-dire que tout est long dans l'enfance.
Ouais.
Et en vieillissant, tout est de plus en plus court. C'est-à-dire qu'on peut se projeter sur 2 ans, c'est pas énorme, 2 ans. Pour un enfant, pour mes enfants, un mois, encore une autre vie, quoi. Donc c'est bizarre, ce truc, ouais.
On a tous calculé qu'on serait presque des vieillards en l'an 2000, et puis on l'a passé depuis un bout de temps.
Et un jour, on est devenu.
Selma est avec nous. Bonsoir, Selma.
Bonjour, je m'appelle Selma, j'ai 8 ans, et j'ai une question pour Aldebert.
Salut, Selma. Je t'écoute.
Pour vos musiques, vous les faites toute seule ou il y a d'autres gens qui le font avec vous?
Alors ouais, je les compose et j'écris tout seul. C'est-à-dire j'écris le texte et la musique un peu en même temps. Tu vois, ça va de pair. Souvent, je trouve une mélodie et puis je trouve des mots. Je sais déjà de quoi je vais parler. Je sais pas comment, de quelle façon je vais en parler, mais je sais déjà un peu où ça va. Et après, j'ai avec moi des arrangeurs. Alors des arrangeurs, c'est des musiciens qui, eux, vont composer toutes les parties des autres instruments. C'est-à-dire qu'ils vont écrire la partition de la batterie, la partition de la basse, du clavier, des cuivres, s'il y a des cuivres, tu vois. Mais moi, ma chanson, elle tient debout d'une façon très simple, avec juste une guitare et une voix. Et après, elle va s'étoffer, c'est-à-dire qu'elle va, elle va être habillée, tu vois ce que je veux dire, par plein d'autres instruments.
Merci, Selma, de ta question. Voici Yanis. Bonsoir, Yanis.
Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 11 ans et j'aimerais poser une question à Laurent Besançon.
Salut Yanis.
Bonjour, combien de temps faut-il pour faire une odyssée?
Eh ben, un peu de temps, un peu de temps. Et surtout, comme
ça je disais tout à l'heure... Ça dépend peut-être, non, de l'histoire.
Ça dépend de l'histoire, ouais, mais après, il y a l'écriture, et puis il y a tout ce qu'on fait en amont, il y a des gens qui... C'est toute une équipe qui travaille derrière, donc il y a des gens qui font toute la documentation. Après, moi, j'écris. Ça prend, en général, 5 à 7 jours. Et après, il y a la réale qui commence, et ça prend aussi 5, 6 jours. Et après, il y a le mixage. Et en fait, on avait calculé une fois que pour faire un épisode du début à la fin, il faut à peu près 3 semaines.
Trois semaines, ouais. C'est énorme.
Et on est intense dans le boulot, quoi.
Mais mais c'est bien que les gens se rendent compte à quel point c'est du boulot,
parce qu'on,
c'est
du travail. On frignole tout, on a envie vraiment à chaque fois que ce soit genre waouh.
Est-ce que vous savez, là, même si elles n'ont pas commencé, est-ce que vous savez dire je sais ce que je vais faire, je connais les 5 prochaines en fait. Même si elles n'ont pas commencé, mais je connais les 5 thèmes.
Oui, je peux vous les dire même.
Ah bah allez-y.
Les prochaines, les prochaines Odyssées sortent le 8 décembre, je crois, si je ne me trompe pas. Et on va raconter 4 aventures. L'aventure de Rosa Bouglione, qui est la matriarche du cirque Bouglione. Donc là, on va partir à l'aventure, en roulotte, avec des animaux. Et après, on est dans le grand cirque d'hiver, en tournée, etc. On va raconter l'aventure d'un viking, Éric le Rouge. Donc là, paf, on sera en bateau dans le Grand Nord, etc. On va découvrir le Groenland et même l'Amérique, parce que c'est pas Christophe Colomb, en fait, qui est arrivé en premier, le premier Européen. Et puis, on va raconter aussi l'aventure de Gustave Eiffel et cette fameuse tour. Et puis, enfin, l'aventure de Eugénie Brasier, qui était une mère lyonnaise. Et c'est la première femme qui a eu 3 étoiles au Michelin. Donc, on sera dans les casseroles et tout ça.
Voilà, cool. comme vous le savez, pendant ce téléphone sonne, les enfants ont pris le pouvoir sur France Inter. Il y en a qui ne se gênent pas, qui viennent s'installer en studio.
Voilà, carrément.
Écoute,
salut.
Tu fais comme chez toi. Salut, Sarah.
Bonjour.
Salut. Salut, on est ravis que tu sois là. T'as bien fait de rentrer dans le studio sans rien demander à personne, parce qu'au moins, comme ça, t'es là. Et la question, elle est pour qui?
J'en ai une pour Laure et une pour Aldebert.
Ah ben, il y a Monsieur Tan qui est en train de pleurer chez lui à Lyon, mais enfin, c'est pas grave.
Il t'entend, il vous entend.
Je suis en train de faire ma compta en même temps.
Vas-y, ça va.
Comment choisissez-vous les thèmes de vos podcasts?
Des Odyssées?
Oui.
Eh ben, ça vient de plein de manières différentes. En fait, les sujets, ils arrivent partout. Il y a des gens qui m'en parlent, comme ça. Il y a des enfants aussi qui m'écrivent parfois. Je ne sais pas si, par exemple, tu as peut-être écouté l'Odyssée sur l'évasion d'Alcatraz. C'est des gens qui s'échappent de cette grande, grande prison en face de San Francisco. Ça, c'est des enfants qui m'avaient suggéré l'idée. Donc, ça vient un peu de tous les côtés, en fait. Les sujets, ils arrivent partout. Le monde vrombit de sujets.
Est-ce que tu as une idée de sujet, toi, Sarah, pour Laure? Il y a quelque chose que tu voudrais qu'elle transforme en Odyssée ou pas?
Bah pardon, bah parce là, que... maintenant, j'ai pas d'idée.
Bah oui, bah
mais
forcément.
Tu pourras m'écrire plus tard.
Mais évidemment, mais voilà. Oui. Mais évidemment. La question pour Aldebert, Sarah.
À quel âge avez-vous commencé à chanter devant un public?
Alors, j'ai commencé à chanter assez tard, je pense vers 25 ans. Tu vois, parce qu'avant, j'étais dans des groupes de rock quand j'étais adolescent, et j'étais choriste, parce que j'osais pas m'adresser à un public avec des chansons, avec mes propres textes, et assumer ça, c'était trop dur. Donc je l'ai fait par étapes, tu vois. Même quand j'étais enfant, déjà aller au tableau pour une équation, c'était déjà l'enfer, quoi. Donc ça s'est fait
surtout
petit
pour
à
une
petit.
Équation.
C'est exactement
c'est
ce
horrible
que je dire.
Pour une équation,
personne ne veut aller au tableau. Hein,
ouais, c'est vrai, je suis encore des cauchemars de ça.
Évidemment, moi aussi.
C'est fou, hein.
Ouais, ouais. Ben, moi, je repasse le bac très régulièrement.
Ouais.
Oh là là, c'est terrible. Monsieur Tan, j'ai une question pour vous. C'est celle de Marcus sur WhatsApp et qui dit: mais pourquoi Geoffroy est amoureux d'Adèle après tout ce qu'elle le fait, tout ce qu'elle le fait souffrir?
Mais parce que c'est ça l'amour. Marcus, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu vas découvrir bientôt
que ça fait souffrir.
Par amour, on est prêt à accepter pas mal de choses, même si je te le rappelle, tu n'es pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. C'est très important d'être aligné.
Absolument. Je voudrais donner une citation de Geoffroy pour lequel j'ai beaucoup de compassion moi aussi. Et qui dit: Adèle, j'ai décidé de te donner mon cœur, qui lui répond: garde-le, mais je veux bien t'en goûter. Voilà, vraiment, moi je l'aime beaucoup. On a une note vocale, j'ai oublié le prénom du petit garçon ou la petite fille. Ah pardon, une note vocale, elle est pour toi alors.
Bonjour, je m'appelle Aloïse, j'ai 10 ans, et c'était une question pour Laure Grand Besançon. Je voulais savoir comment vous arrivez à trouver ces blagues tellement drôles qui nous font rire à chaque fois qu'on écoute vos émissions.
Comment vous faites pour être si drôle? Merci beaucoup. Comment vous faites pour être si drôle,
oh là là,
hein,
la
Besançon?
Question, eh ben, un peu, je ne sais pas. En fait, c'est un peu artisanal la façon dont j'écris les Odyssées. J'écris, je tape, je réécris, je raye. Je fais genre là, je joue un peu de mon bureau. Je les teste autour de moi.
Est-ce que vous avez des enfants
équipe.
Pilotes
j'ai des enfants pilotes et je dois dire que j'ai des petits cousins qui parfois aussi me filent quelques bons petits tuyaux. Ça m'est arrivé de dire genre, si je te dis Spartacus, tu penses à quoi? Et t'entends, c'est eux qui m'ont glissé, par exemple, une petite blague sur Spartacus. Okay. Gare à ton cul, Spartacus. Et ça, c'est... Je dois vraiment leur rendre leur laurier. Mais sinon, je teste comme ça, je sais des mots et tout ça. Et puis souvent, en fait, le truc, c'est que souvent, je fais beaucoup de blagues nulles. Parce que le principe, quand même, c'est que c'est une blague nulle, c'est quand même une blague.
Ouais.
Donc voilà, on l'apprend quand même.
Voilà, une blague normale, une blague drôle et une blague nulle, c'est toujours deux blagues.
Ça fait toujours deux blagues. Il faut en tester beaucoup pour en arriver à trouver
voilà
une bonne.
C'est une question qui va réconcilier Aldebert avec...
question vocabulaire, Adèle, elle est nickel, hein, monsieur Tan.
Ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Elle dit des horreurs, mais elle les dit de manière extrêmement...
Elle les dit d'une façon qui est très,
très
imaginative. Oui. Voilà, elle dit « toi, je te zute », face voilà. de Burke... Oui, elle a ces titres. Là, le dernier tome qui est sorti, c'est « Bande de compote ». On essaye de faire que la viralité de Mortel Adèle, puisque c'est quand même 24 millions de lecteurs aujourd'hui dans les cours de récréation, ne leur cause pas trop de problèmes. Donc on essaye de faire en sorte que quand ils répètent ces répliques, ce soit plutôt drôle et plutôt mignon et plutôt une façon de s'exprimer.
Et puis c'est hyper
joyeuse.
Créatif.
Ah bah oui.
Vente de compote, tout ça, mais j'ai envie de le redire.
Mais évidemment, mais ça
mais,
c'est.
Mais
la...
pas de souci, je prends note pour les avocats.
Ah, mais non, mais dans la vie.
Mais ça c'est
dans
la magie.
La vie,
c'est la magie de la BD.
Mais c'est la magie d'à peu près tout ce qu'on vous raconte. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai travaillé avec Aldebert, qui est un poète absolu quand il écrit. Le travail que fait Laure, c'est aussi un gros travail de poésie, finalement, de rendre le monde joyeux, acceptable et drôle. Et je trouve que, voilà, il faut aller chercher là-dedans les petits bonheurs, comme dirait ma co-autrice Diane Lefeuille.
Allez, ils s'y mettent à deux, les enfants, ce soir. Voici Mathilde et Adélaïde. Salut les filles.
Bonjour.
On vous
Bonjour.
Écoute.
Salut.
C'était une question pour Laure Grandvin-Zinson. Et en fait, j'aimerais bien que vous fassiez des podcasts sur des chanteurs. Comme Aldebert, du coup, par exemple.
Mais trop bonne idée.
Ah bah voilà.
Vas-y, viens, on commence maintenant.
Mais on commence tout de suite. On commence par une...
Alors, je ne sais pas si c'est Mathilde ou Adélaïde qui a parlé, mais alors, en dehors d'Aldebert, sur quel chanteur ou chanteuse vous aimeriez toutes les deux que Laure fasse une odyssée?
J'ai mon crayon, je note.
Ça, et Vianney.
Ah, ok.
Ok.
Bah, un petit peu tout. Moi, j'aime bien la pop avec ma sœur.
Ok.
Je note pop, Vianney. Et le premier, c'était qui? J'ai oublié.
Santa.
Ah ouais.
Ok.
Ouais,
bah voilà. Ça marche, mais c'est vrai que c'est une trop bonne idée, la musique.
Il y a encore une question pour Aldebert, mais tant que je te tiens, Sarah, que t'es là, toi, t'as une idée de chanteur que tu voudrais, ou de chanteuse, non, ou pas, pour Laure Grandvin-Zinson? C'est qui ton chanteur préféré ou ta chanteuse?
Bah, moi, c'est plutôt un groupe que j'aime bien.
Vas-y, c'est qui?
Imagine Dragon.
All right. Wow. All right. Je note aussi.
Bah oui, s'il te plaît.
Bon courage pour les avoir.
Imagine Dragon.
Voilà. Je ne sais plus si c'est Mathilde ou Adélaïde qui avait une autre question pour Aldebert. Allez-y.
Bonjour, je m'appelle Adélaïde.
Voilà, c'est Adélaïde.
Ans, et c'était une question pour Aldebert. Combien sur 100 t'as le stress quand tu montes sur scène?
De 0 à 100.
Ah, sur 100 c'est souvent 135 à peu près. Ouais. Tu sais, parce que moi je suis un traqueux, j'ai beaucoup de collègues qui sont traqueux. J'ai fini par. Me dire que c'était normal. Et ce qui est drôle, c'est que même quand je chante chez ma grand-mère avec mes cousines, ça me fait peur. Et ça peut même me faire plus peur que devant un zénith de 7000 personnes. Tu vois, c'est bizarre, hein. Mais ouais, c'est un truc... je pense que c'est parce qu'on a peur de pas bien faire. Donc du coup, on se sent un peu responsable et on a envie de faire ça le mieux possible. Donc c'est une espèce de responsabilité comme ça. mais c'est quelque chose de très sain, paraît-il, d'avoir peur.
Voici Louison qui a 10 ans. Salut Louison. Louison. Louison.
Allô?
Ah, salut. Salut Louison.
Bonjour.
Bonjour. On t'écoute.
Bonjour, je m'appelle Louison, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi Aldebert, tu es passé à des chansons pour enfants plutôt douces et pas très dures à plutôt du rock et un peu des chansons.
Alors, il y a un truc qui s'appelle la crise de la cinquantaine.
Voilà,
où j'avais vraiment énormément besoin de retrouver ce qui me plaisait beaucoup quand j'étais adolescent. Et tu vois, mes parents, ils écoutaient pas du tout de chansons, enfin, ils écoutaient pas du tout de rock, pardon. Ils écoutaient que de la chanson française, du classique et du jazz. Et moi, par les grands frères de mes potes, j'ai découvert le métal et tout l'imaginaire, tout le décorum autour de ça, c'est-à-dire des choses un peu extraordinaires, tu vois, une espèce de théâtre avec des monstres et tout ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, là, j'ai voulu partir dans cette esthétique-là pour changer un petit peu aussi la forme, tu vois. Et après, je vais revenir à la chanson, mais même si enfantillage, l'ADN d'enfantillage, c'est toujours des chansons.
Une question pour vous, Monsieur Tan, c'est celle de Jeanne. Bonsoir, Jeanne.
Bonsoir.
On t'écoute, Jeanne.
Alors, j'aimerais demander pourquoi Ajax, il est bleu.
Bah oui, pourquoi Ajax, il est bleu.
Mais quelle question, parce que c'est le seul chat du monde qui est fabriqué à 99% d'une matière qu'on appelle le chat malo, ce qui le rend totalement destructible et ce qui vous explique à vous les enfants qu'il ne faut absolument pas reproduire ce que Adèle fait sur son chat aux chats qui sont à la maison.
Ah non, ça, effectivement, il est totalement interdit de reproduire ce qu'Adèle fait
vous
sur son chat.
Vous avez bien enregistré, c'est bon, tout le monde a...
Ah mais vraiment, oui. Jusque-là, aucun chat n'a été blessé durant ce téléphone sonne. Mais après, je ne réponds de rien.
De l'histoire de Mortal Adèle, on a eu que des enfants qui se sont découverts de la confiance en eux, de la liberté de ton, mais jamais de blessés.
Et une passion pour les chats bleus. Une note vocale, exactement. C'est celle de Sacha.
Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 12 ans et j'ai une question pour Monsieur Tan. Est-ce qu'il y aura des livres de Mortal Adèle où elle est au collège ? Merci, au revoir.
Faut la faire grandir, la petite
et
Adèle.
Ouais, on me pose beaucoup la question. Moi, en fait, Adèle, c'est un personnage que je trouve utile à l'endroit où elle se trouve. Je trouve que elle est un endroit de l'enfance qui parle aussi beaucoup aux adultes. Étrangement, on reçoit beaucoup de lettres, de courriers de parents qui nous disent qu'ils auraient aimé qu'elle existe quand ils étaient petits. Je crois fort que la littérature jeunesse, elle a deux pouvoirs. Elle a le pouvoir de réparer les enfants avant qu'ils ne se brisent, parce qu'on leur donne un équipement, on leur donne des outils pour affronter les collisions dont on parlait tout à l'heure et qui finiront par se produire. Mmh. Mais elle peut aussi réparer les adultes à des endroits où ils pensent plus pouvoir être réparés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur ça et c'est de travailler sur une réponse à ça. Et pour ce qui est de faire grandir Adèle, du coup, je préfère montrer ce qu'elle accomplirait en grandissant. Par exemple, là, on a travaillé sur un fascicule contre le harcèlement scolaire. Mmh. Je pense qu'Adèle, c'est une petite fille qui se serait engagée en grandissant sur des causes qui lui tiennent à cœur et qui lui aurait permis de laisser une empreinte sur le monde.
Mmh. Voilà. On a un message de Willy qui dit « Non, mais c'est juste pour dire que les grands aiment aussi Mortel Adèle. » Bah, tu m'étonnes. Et surtout que les enfants nous le font découvrir, par exemple, sur la route des vacances. Et, mais ça sert aussi à ça, en fait. Et très sérieusement, Monsieur Tan, il lui arrive des trucs à Adèle où j'imagine que, du coup, les enfants ont envie de dire « Et toi aussi, tu connais cette histoire ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé la même chose ?» C'est aussi comme ça que ça marche. Ça marche pareil avec les chansons, Aldebert, j'imagine, non ?
Bien sûr, ouais, on a plein de choses à partager entre les histoires qu'on raconte. Et c'est ça qui est cool, heureusement. Et c'est vrai, c'est marrant ce que disait Antoine, parce que bon, on pose aussi la question, pourquoi tout d'un coup je ne m'adresserais pas aux adolescents, alors qu'ils sont plus proches de nous, nous les vieux. et en fait, moi, je ne me sens pas du tout à l'aise avec le public adolescent aussi, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que je ne saurais pas leur parler. C'est étrange, hein, mais c'est un fait, hein, vraiment.
Puis les ados, mais c'est parce que ça parle à des endroits de la sensibilité. Après, ce qui est très juste dans ce que vous venez de dire, c'est que la création, qu'elle soit faite par... chacun de nous trois, elle est aussi là pour relier les solitudes entre elles. Et c'est ça qui est chouette, c'est de se rendre compte que finalement, parfois, on croit être les seuls à avoir vécu quelque chose de complètement triste, tragique, dramatique ou drôle. Et finalement, on se rend compte qu'on est tous sur la même planète et qu'on vit tous les mêmes choses de chacun de notre côté, quoi.
Salut Lucie.
Bonjour.
Il nous reste très peu de temps, Lucie, mais on en a un petit peu pour toi. Vas-y.
Je voulais remercier Monsieur Tan, leur grand Besançon et Aldebert, parce que j'étais en primaire pendant le confinement et du coup ça a beaucoup construit mon enfance, ça m'a sauvé mon confinement et je voulais les remercier parce que ça me fait plaisir de les entendre à la radio et de voir qu'il y a encore des enfants qui les écoutent et qui lisent leur BD.
Elle a 14 ans.
C'est gentil,
ans.
Merci.
C'est super.
On t'embrasse très fort, ouais, c'est trop cool.
Et moi j'adore, hein, ça a sauvé mon confinement. Ça, non mais sérieusement, ça a tapé très fort pour des enfants le confinement. Donc c'est bien que vous ayez vraiment servi à ça tous les trois.
Ce commentaire, il est très généreux et je trouve qu'il dit beaucoup aussi de la jeune fille qui est devenue Lucie. Grâce à toutes ces découvertes.
Donc bah écoutez, c'est très beau. Lucie, on t'embrasse, on embrasse tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous les trois.
Merci
d'avoir répondu aux questions des enfants. Merci d'avoir joué le jeu. À très vite.